Merci d'écouter CFM Radio, c'est Jacques pour le magazine. Nous sommes ensemble jusqu'à la demi. C'est jeudi et on retrouve Rémi Kulik avec nous dans Plantes et Histoires de Plantes dans quelques minutes. Il sera question aujourd'hui de la biodiversité du sous-sol. La dernière fois, nous avions parlé de la biodiversité de manière générale, de la biodiversité dans les jardins, dans les potagers, dans les vergers, comment l'améliorer. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur celle qui grouille sous nos pieds. Et puis dans le coup de projecteur de la rédaction aujourd'hui, il sera question du grand forum participatif organisé par l'été de Vaour ce samedi à partir de 10h à la salle des fêtes. Stéphane Bou est dans le coup de projecteur, le focus de la rédaction à suivre d'ici une vingtaine de minutes. Et hier, j'étais à Vaour pour un rendu de résidence qui était donné au théâtre de la Commanderie par Édouard Perrichard, qui travaille sur le spectacle Le repos du guerrier. Et en ouverture de son spectacle, il a diffusé un titre de Bruce Springsteen que j'ai découvert et que je partage avec vous aujourd'hui, Downbound Train. Le titre « Downbound Train » par le boss Bruce Springsteen à l'instant dans le mag du Tarn.
CFM Corde, le mag.
Plantes et histoires de plantes avec Rémi Kulik, jardinier permaculteur à Vaour. La semaine dernière, Rémi, il était question de la biodiversité de manière générale dans les jardins, dans les potagers, comment faire avec et comment la favoriser. Mais aujourd'hui, on va se focaliser un peu plus sur la biodiversité du sous-sol, qui est importante à la fois pour la fertilité du sol en question, mais pour la nutrition également des plantes. Et Rémi, j'aimerais que tu commences par nous expliquer comment cette biodiversité intervient à ces niveaux-là.
Alors, je pourrais parler du cycle d'auto-fertilité, on va dire. Alors, j'aime bien cette image de Marc-André Sellos. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il a écrit des bouquins sur le sol qui sont passionnants. Est-ce que ça arrive qu'on aille balayer un sol parce que les feuilles mortes tombent sur le sol? Ça arrive jamais. Par contre, sur la terrasse, des feuilles mortes elles tombent. Si on les ramasse pas, on se retrouve avec voilà toutes ces feuilles mortes qui s'accumulent. Le sol, il est plein de vie et ça va manger. Le cycle de la matière organique, c'est ça. Une feuille morte elle tombe au sol. Il va y avoir d'abord tout ce qui est les gros arthropodes qui vont manger, fractionner tout ça. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est les micro-arthropodes qui vont fractionner ça en morceaux de plus en plus petits. Et la matière organique, elle va avoir différentes directions possibles. Soit elle va se décomposer, se fragmenter en morceaux de plus en plus petits pour servir d'alimentation. Soit ça va rester stocké sous forme d'humus. Et cet humus, ça va être une réserve de fertilité pour plus tard. Soit ça va être minéralisé. Minéralisé, ça se fait à tous les stades. C'est les êtres vivants qui mangent cette matière organique, vont l'utiliser dans leurs cellules pour produire de l'énergie. Et le déchet qui est produit, ça va donner de l'azote, ça va donner du phosphore, ça va donner de la potasse. Tous ces ions minéraux, c'est des ions, c'est vraiment des atomes, c'est tout petit. Et ben ces ions vont être réaccessibles pour les plantes et donc rentrer dans les végétaux pour qu'ils reproduisent leur matière végétale. Et donc la boucle est bouclée. De la feuille morte qui est tombée au sol, on a nourri toute cette vie du sol en fractionnant et en minéralisant cette matière a reproduit des matières nutritives pour les végétaux. Et comme ça, ça tourne en boucle. Et c'est une boucle qui, alors, au niveau de nos jardins, elle n'est pas fermée, cette boucle. Il y a toujours des pertes. C'est pour ça que c'est bien de, parfois, nourrir d'une certaine manière, faire attention. Mais globalement, au niveau du globe, ben, toutes ces matières tournent en boucle. C'est ce qu'on appelle le cycle des nutriments. Et il y a plein de petits cycles différents. Le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, le cycle du carbone. Ils sont tous différents, mais tout ça, ça tourne en boucle grâce à la biodiversité et dans les sols, ben grâce à la vie du sol.
Ouais. Il y a aussi ceux qui vont permettre de structurer différemment le sol, notamment les vers de terre, ils participent à ce cycle que tu viens de nous expliquer, mais ils aident aussi le sol à être un peu plus aéré. Donc il y a différents types comme ça d'animaux, de micro-organismes qui interviennent là-dessous, dans ce sens-là.
Alors on part sur un gros sujet, on pourrait faire une émission là-dessus. En fait, tous les êtres vivants du sol indirectement agissent sur sa structure, dont tu parles des vers de terre. Il y en a plein, des vers de terre. Il y a ceux qui vivent en surface, ceux qui vivent au fond, et les plus classiques qui font les allers-retours entre la surface et le fond, qui se nourrissent de terre, d'éléments organiques, et qui, dans leur ventre, vont mélanger tout ça et créer ce qu'on appelle même le complexe argilo-humique, ces petits agrégats de sol qui font que le sol reste structuré. Mais tous les petits arthropodes qui vivent dans le sol, en circulant, ils vont faire des petites cavités, vont structurer le sol aussi. Par les déjections qu'ils font, vont aussi créer du sol qui se tient un petit peu. Les champignons qui poussent là-dedans vont déstructurer, vont manger la lignine du bois, vont le déstructurer. Mais par tous ces petits filaments vont tenir ce sol aussi. Tous les petits protozoaires, les petites amibes qui vont manger les bactéries vont aussi laisser des matières qui vont tenir ce sol et créer des micro-cavités qui vont faire que l'eau tient mieux dans le sol. Donc, il y en a pas un plus important que l'autre. Et de toute façon, si on supprime un élément de cette chaîne alimentaire, alors moi j'aime bien cette image de chaîne alimentaire, c'est vraiment cette image de ces maillons qui se tiennent les uns les autres. Si on supprime un maillon, alors c'est pas une chaîne comme on pourrait avoir autour du cou, c'est comme un filet fait de plein de maillons. Si on supprime un maillon, bon, ça se déstructure un tout petit peu, mais ça tient. Mais si on commence à en supprimer 3, 4, 5, il y aura une réaction en chaîne qui fera que ben, cette chaîne alimentaire se casse la gueule. Donc, il n'y en a pas un plus important que les autres. Ils ont tous leur place. Et nous, les humains, on a tendance des fois à classer en pathogènes et en non-pathogènes. Ben, les pathogènes servent à ce que leurs prédateurs soient présents aussi. Donc, au niveau biodiversité, au niveau du sol, il n'y a pas les gentils et les méchants, il n'y a pas les bons et les mauvais. Ils sont tous importants et il faut tous leur garder leur place.
Bon, alors ceux-là, ils ne sont pas forcément sous le sol, mais je vois déjà d'ici des gens qui se disent comment aimer les limaces? Et pourquoi les aimer les limaces, Rémi Kulik?
Eh bien là, on parlait des vers de terre, par exemple, qui mangent la matière organique. Une limace mange des végétaux. Alors, il y a plein d'espèces de limaces. On dit la limace, mais il y a plein de limaces différentes. La plupart mangent des végétaux. Beaucoup mangent des végétaux plutôt faibles, plutôt fragiles. Beaucoup vont manger les champignons qui poussent sur les végétaux. Une limace qui mange un champignon pathogène, le méchant champignon qui est sur les végétaux, va le digérer et ne va pas le rejeter dans ses excréments. Par contre, il y a des champignons mycorhiziens, il y a des champignons qu'on veut avoir dans nos systèmes. Ben celles-là, la limace les mange aussi, mais les spores de ces champignons se retrouvent dans les déjections des limaces. Donc déjà, elles vont propager des bons champignons, manger nos végétaux malades et assurer aussi ce cycle de la matière organique. On pourrait le voir aussi d'une autre façon. On a envie d'avoir les prédateurs des limaces pour que ça s'équilibre. Mais s'il n'y a plus les limaces, les prédateurs ne seront plus là non plus. Et en général, les insectes qui pourraient être plutôt gênants, les ravageurs, qu'on appelle ravageurs, se développent beaucoup plus vite. Si on supprime les limaces, les prédateurs ne seront plus là. Si les prédateurs ne sont plus là, les limaces, elles, vont revenir très très vite. Et là, il y aura un déséquilibre. Donc, il faut qu'elles soient présentes. Et il faut qu'elles soient présentes tout le temps pour que les prédateurs restent en place. Et puis en plus, elles ont une place vraiment très importante dans nos écosystèmes. Il y a des techniques après pour réussir à produire avec les limaces, ça pourrait être encore un autre sujet. Et si on arrive à faire avec et qu'elle s'équilibre, elle fait partie du système, elle n'est pas si gênante que ça. Et on pourrait même s'y intéresser un peu, les observer. Moi perso, je les trouve très très jolies. Et puis les limaces entre elles, c'est tout un monde aussi. Il y en a plein de genres différents. Il y a les limaces prédatrices qui vont manger d'autres limaces. La limace léopard. Ben, c'est comme un léopard qui va courir après un lapin, sauf que la limace léopard, elle, ça arrive qu'elle mange une autre limace. Mais ça, il faut les aimer pour pouvoir les observer, pour pouvoir voir qu'il se passe ça aussi.
Ben, ce qu'on voit d'habitude, c'est qu'elles mangent nos salades, et une fois comme ça, j'ai entendu dire que si les limaces viennent sur les salades, c'est parce qu'il n'y a pas de végétaux à décomposer à proximité qu'elle elle fait avec. Elle passe au restaurant gastronomique, en fait. Quoi.
Exactement, c'est ce qu'on me répond souvent quand je dis que les limaces mangent les végétaux malades. Ben, il y a des gens qui disent, oh, mais moi, elle m'a mangé toutes mes salades, elles étaient pas malades pourtant. Mais est-ce qu'il y avait autre chose à manger à côté? Forcément, si on les affame, dès qu'il y a une salade fraîche, toute tendre là qui sort, ben, les limaces ont envie de les manger, forcément. Il y a une période, alors là, au printemps, en ce moment, où les limaces se réveillent. Faut savoir que bon, tout ça, c'est très très bien organisé. Tout dort pendant l'hiver. Et puis, tout se réveille petit à petit au printemps, mais pas tout en même temps. Si les limaces se réveillaient avant les plantes, elles auraient rien à manger, elles mourraient. Si les prédateurs de limaces se réveillaient avant les limaces, ils auraient rien à manger, ils mourraient aussi. Donc ça se réveille dans l'ordre inverse. Les plantes d'abord, les limaces ensuite, et les prédateurs qui viennent derrière. Donc il y a une période, et là en ce moment, où les limaces sont là, prêtes à manger nos plantes, et les prédateurs ne sont pas encore réveillés. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Et faire attention, ça veut dire respecter ces limaces et faire en sorte qu'elles aient à manger aussi et qu'elles aient pas le choix de manger que nos salades. Il faut qu'elles aient autre chose à manger. Il y a un truc tout simple, on peut planter des salades et puis balancer quelques petites feuilles de salade autour ou jeter nos déchets de cuisine sur nos zones de culture pour que les limaces aient quelque chose à manger. Et nos salades, elles vont les laisser tranquilles.
Donc on les détourne un peu des salades de cette manière. J'aimerais que l'on parle aussi un tout petit peu des champignons. Tu l'as abordé un peu plus tôt là, l'importance des champignons aussi dans un potager ou tout simplement dans la nature. De plus en plus, j'entends des gens qui plantent volontairement des champignons dans leur potager. Et donc là, on ne part pas à la chasse, à la cueillette aux champignons dans la forêt. Là, on parle vraiment de ce qui se passe dans le potager. Et c'est pas forcément des champignons comestibles. Et c'est aussi des champignons qui, des fois, se développent juste comme ça à la surface de certaines plantes. Qu'en est-il de l'importance des champignons pour la biodiversité?
Alors, c'est crucial, je dirais, c'est crucial. Alors, il y a plein de types de champignons. Les champignons pathogènes, bon, ça, on l'a compris, c'est ceux qui mangent les végétaux. Il y a des champignons qui mangent les végétaux vivants, il y a des champignons qui mangent les végétaux morts. Ceux qui mangent les végétaux vivants, c'est vraiment ceux-là qui nous embêtent. Ceux qui mangent les végétaux morts, c'est eux qui décomposent le bois. C'est les seuls qui savent manger la lignine du bois. Sans ça, il y aurait du bois qui s'accumulerait, des feuilles mortes qui s'accumuleraient au sol. Donc voilà, les champignons vont recycler tout ça. Et il y en a d'autres, et c'est ceux-là qui sont vraiment de plus en plus importants aujourd'hui en agriculture, c'est les champignons qu'on dit mycorhiziens. C'est ceux qui vont s'associer aux racines des plantes. Alors, moi j'ai entendu parler de ça il y a déjà quelques années, je me suis dit, c'est super intéressant. Il y a une évolution qui s'est faite où les plantes vont s'associer avec les champignons pour pousser encore mieux. C'est pas du tout comme ça que ça s'est fait. Les plantes et les champignons n'ont pas évolué pour s'associer. Quand les plantes sont sorties de l'eau, il y a un peu moins de 400 millions d'années, c'est grâce aux champignons. Les premières plantes à être sorties de l'eau, c'est des algues, et les premiers champignons à être sortis de l'eau ont permis à ces algues de sortir de l'eau. Et ça s'appelait les lichens. Les lichens, c'est les premiers... Alors j'allais dire végétaux, c'est pas vraiment des végétaux, mais c'est les premiers à être sortis de l'eau avec cette symbiose-là qui s'est faite entre l'algue qui est dans le lichen. Ensuite, il y a eu les mousses, ensuite il y a eu tout un cortège végétal qui a suivi. Mais depuis le début, les plantes poussent avec les champignons. Il y a eu quelques familles, alors je crois qu'il y en a 8 en tout. En France, on a les brassicacées, les quenopodiacées et peut-être quelques autres, qui ont évolué pour ne plus pousser avec les champignons. C'est les seules plantes qui ne poussent pas avec les champignons. Toutes les autres poussent avec. Donc si on laisse ce mécanisme se mettre en place, on va avoir des plantes qui sont, ben, qui poussent naturellement, qui sont beaucoup plus adaptées. L'association, la mycorhize, donc l'association plantes champignons, permet énormément de choses. Donc, je suis pas sûr qu'on ait le temps de toutes les citer là, mais ça permet énormément de choses. Elles vont être beaucoup plus aptes à aller se manger différents éléments minéraux dans le sol, parce que les champignons savent aller absorber dans le sol des choses que les plantes ne savent pas. Les champignons vont aller chercher de l'eau plus loin. Les filaments des champignons sont tellement fins qu'ils vont dans la structure du sol beaucoup plus en profondeur pour prendre de l'eau là où les plantes n'y arrivent pas. Donc les plantes vont mieux résister à la sécheresse. Je continue, on a le temps.
Oui, oui, continue parce que je trouve ça super intéressant, mesdames et messieurs. Rémi Darwin-Cully qui est avec nous. Oh,
les champignons, donc, ils pénètrent vraiment dans la racine. Alors, il y a différents types. Il y a les endomycorhiziens, ectomycorhiziens. Ça, c'est selon si les filaments des champignons vont jusqu'à l'intérieur de la cellule des plantes ou pas. Mais dans tous les cas, les champignons pénètrent quand même dans la structure racinaire. La plante le sent, elle accepte cette intrusion complètement, mais elle va quand même réagir. Une plante qui se fait attaquer par un champignon pathogène, elle essaye de se défendre, elle va développer des défenses, comme nous on développerait des défenses immunitaires. Ben, au niveau de la mycorhize, ça crée le même effet sur la plante, sauf que le champignon n'est pas pathogène. Donc ça veut dire que la plante qui est mycorhizée, elle va être déjà d'emblée plus résistante aux potentiels champignons pathogènes qui pourraient arriver. Donc une plante qui est mycorhizée, elle est plus résistante à des attaques. Donc on pourrait se dire c'est un avantage que la plante a à faire ses mycorhizes. Eh ben non, encore une fois, je reviens en arrière, c'est pas un avantage, c'est normal, c'est comme ça qu'elle pousse. Par contre, nous, dans nos cultures, où on défavorise ces sols riches en champignons, eh ben on a l'habitude de voir des plantes sensibles et on a l'impression que c'est un avantage qu'elles aient les champignons. Non, c'est plutôt l'agriculture qui a détruit ce système-là. Il faut savoir que les champignons, ils poussent dans les sols qui sont aérés, donc dès que le sol est compacté, ça marche plus. Les filaments des champignons qui forment le corps des champignons, ben, c'est des filaments. Si on fait un labour, si on fait un travail de sol, on fractionne, on casse tous ces filaments, on tue les champignons. Donc les sols trop travaillés n'ont plus ces mycorhizes-là. Donc voilà, encore une fois, favoriser la vie du sol, favoriser tout ça, fait qu'on va avoir des plantes qui vont pas aller mieux, elles vont juste aller bien.
Eh bien, merci beaucoup Rémi Kulik pour toutes ces indications sur la biodiversité que l'on peut favoriser dans nos sols. En tout cas, moi, je retiens que prochainement, on pourrait parler un de ces jours de comment produire avec des limaces. On pourrait faire un focus aussi, un de ces quatre, sur les champignons, parce que là, je buvais tes paroles, moi. Rémi Darwin Kulik du Jardin des Merveilles de Vahour. Il était avec nous aujourd'hui sur CFM Radio dans Plantes et Histoires de Plantes. Rémi, bonjour et merci.
Merci, avec plaisir.
CFM. CFM Radio. CFM Corde.
Et rendez-vous sur cfmradio.fr pour les podcasts des chroniques plantes et histoires de plantes avec Rémi Kulik. Le Mag du Tarn se poursuit en musique. Le titre Trop beau de l'homme pâle, revu par Emma Peters et Chrysologo.
J'avais jamais vu de nuit aussi claire. Je regarde enchaîner les cigarettes. C'est l'homme qu'on lance son enfant toujours les cigarettes. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant, aucun mot sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Non, mais j'hallucine. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve, soit je la quitte en lui disant notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'est trop beau pour elle. Soit je la quitte en lui disant garde le sourire, plus rien n'est grave.
tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil. Maintenant pars loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Bébé, serre-moi fort que j'oublie que c'est le chaos. Pour c'est le chaos. Regarde-nous le destin pas honte. Les durs pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit. Nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. C'est comme la drogue qu'on a toi plané. Tout son dos, mon torse fait de l'aquaplaning. Le problème, c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, regarde le sourire. Plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil. Maintenant pars loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'est trop beau pour être.
CFM, coup de projecteur.
Rendez-vous ce samedi à Vahour à partir de 10h pour participer à un moment d'échange et de propositions pour les prochaines éditions du festival L'été de Vahour. Stéphane Bou est en charge de la coordination du projet de l'association et de la programmation.
L'idée, c'est de permettre à chacun de prendre la parole et d'imaginer avec nous ce que cet événement pourrait devenir, comment on pourrait l'améliorer, comment on pourrait le faire évoluer, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne peut-être moins bien. Voilà, se donner l'occasion d'ouvrir en tout cas ces discussions que nous on a toute l'année en interne, de les ouvrir le temps de ce grand forum à tous les habitants du territoire et que chacun puisse se saisir de la culture locale et de ce qui se passe sur ce territoire.
C'est la suite d'une consultation que vous avez entamée il y a quelques mois déjà. À ce jour, il y a plus d'une centaine de contributions qui ont pu être apportées par les habitants. Qu'est-ce qu'il en ressort de ce que les gens vous disent ?
Pour l'instant, il en ressort beaucoup de choses qu'on est encore en train de déblayer, à vrai dire, parce que l'idée, c'est que effectivement, ces questionnaires qui se sont baladés ces derniers mois sur le territoire fasse émerger quelques thématiques qu'on puisse aborder samedi 26 mars lors du forum. Mais c'est sûr qu'il est question de plein de choses, que ce soit les envies de programmation du festival, est-ce qu'on pourrait imaginer de nouveau, les lieux qui sont utilisés, les aspects pratiques de camping, de parking, voilà, il y a pas mal de choses qui sont déjà abordées dans ces questionnaires, mais qui effectivement ciblent avec plein de justesse des endroits de travail et des endroits qu'on pourrait améliorer et que ce festival continue d'être ce beau moment social et convivial.
Le grand forum de l'été de Vahour, samedi à partir de 10h à la salle des fêtes du village, c'est ouvert à tout le monde et toujours à Vahour ce samedi dès 15h. Carnaval suivi d'un concert de musique et de danse brésilienne avec le groupe Foro des Lois.
CFM. Coup de projecteur.
Les informations arrivent dans quelques minutes sur CFM Radio, le Mac du Tarn, et c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour quelques idées de sortie, hein, pour le week-end qui s'annonce assez sympathique. Et allez, on va se quitter en musique avec un artiste sénégalais, il s'appelle Lass, et le titre que je vous propose, c'est Mo Yaro. Et pour information, Lass est d'ores et déjà annoncé au Festival Africa Jazz. C'est dans le Lot au mois de juillet. Allez, passez une excellente fin de journée.
Dingo! come out your gate, say warning girl, come on. Day sun, aleluya, rumani, I'm a mom. Yali gelu melni, I'm lo morom. Day sun, ajaf chubakji, mani, I borom. Funyula today, mani, muyaru. Akhale bile, mani, muyaru. Funyula today, mani, muyaru. Akhale bile, mani, muyaru. Yile. Chikon bi kel na melni hao dai san sayu mal se ne khol bi dal chi hao ha mani yalla samla he mani yalla samla dai nga ma ti ker se woni nga come on dai san hale pu yaru mani am mom yalli gelu melni am lo moro Ajaf chubakji mani ay borom Funyula today mani muyaru Akhale bile mani muyaru Funyula today mani muyaru Akhale bile mani muyaru Funyula today mani muyaru